au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Bonjour, 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 bonjour avec... Pourquoi quatre fois bonjour, Mathieu?
Parce que...
C'est plus dur quand on n'a pas de voix.
Mais c'est exactement ce que j'allais dire ou presque.
On est bon. Bon, écoutez, désolé, un petit problème de voix, mais il n'y a pas de problème, je ne suis plus malade. La voix craque encore un petit peu. C'est ça. C'est les risques du métier. C'est les risques quand on attrape le rhume. Voilà. Alors, c'était 96 heures de cure du silence. Mes amis étaient très heureux. Bienvenue à l'émission quotidien aujourd'hui, une émission très chargée. Aujourd'hui, c'est le 305e jour de l'année. Dans 60 jours, c'est le bye-bye. Et j'ai commencé à recevoir des publicités de Noël parce que c'est dans 53 jours. C'est la Saint-Hubert, patron des chasseurs aujourd'hui. Alors, au sommaire aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de sujets. Nous accueillons Hugues Corriveau, qui va parler de son recueil de poésie Tendresse. Nous accueillons Ahmad Hamdam, qui va parler de Pourmael, présenté à la petite licorne. On reçoit Maxime Carbonneau et Joe-Philippe Lafortune, comédien et metteur en scène de Corps Fantôme. Et aussi, on va parler de la grande demesure d'Interling, organisme qui soutient les personnes de la diversité sexuelle et de genre, qui est en grande campagne de financement. Et on a une chronique avec Daniel Rioux aujourd'hui. Allô, Daniel.
Bonjour, Denis Martin. Oui, puis avec la voix enrouée que vous avez, donc vous allez pouvoir vous reposer. Et aussi,
oui.
je vais prendre le plancher là un petit peu. Avec sujet intéressant, qui êtes-vous? C'est quasiment ça que je pourrais dire avec la voix que vous avez ce matin. Qui êtes-vous? Mais là, je parle de personnalité et c'est intéressant parce qu'on se demande quel genre de personnalité qu'on a. Et la communauté scientifique a rassemblé 5 facteurs qui rassemblent, entre autres, 30 facettes de personnalité. Donc, on va se demander si on a un caractère consciencieux, si on a un névrosisme, ou on a une capacité d'ouverture. Sommes-nous agréables ou extravertis? Donc, c'est la personnalité ce matin dont je vous parle et peut-être allez-vous découvrir plein de choses.
Je ne sais pas avec la voix que j'ai, peut-être que j'ai la personnalité de Jeanne Moreau.
Oh là là!
Alors, à la météo aujourd'hui, c'est la journée qui s'annonce clémente ce matin au Québec. Perturbation qui apportera de la pluie et un net réchauffement dans le sud du Québec en après-midi. En Ontario, c'est un réchauffement notable dans le sud et le nord reste plus frais. Donc, dans les deux provinces, on est autour de 5 à 10 degrés avec des possibilités de pluie en fin de journée. Dans les provinces atlantiques, c'est alternance soleil-nuage avec 8 à 11 degrés. Sauf à Saint-Jean-de-Terre-Neuve où il pleut. Ça, c'est les restants de Mélissa, la petite coquine. C'est ensoleillé dans les provinces de l'Ouest et on tourne autour de 5 à 10 degrés. Ah tiens, je vais vous faire entendre quelque chose. Alors, vous savez ce que c'est, ça? C'est le SOS. Ben oui, en 1906, la conférence radio-télégraphique internationale de Berlin fait de ce SOS le signe de détresse universelle. Mon Dieu, ça fait seulement que... quoi? 121 ans, à peu près? Non, 119 ans. 119 ans. Voilà. 1936... Mon Dieu, réélu président, c'est on parle ici de Roosevelt, qui est arrivé avec le New Deal pour sortir son pays de la Grande Dépression. Mon Dieu, quelle différence avec celui qui est là présentement. Et puis, ça me tentait de vous dire que le 1er novembre 1970, est créé ce groupe, et j'ai choisi même une chanson en français.
La même comédie. Waterloo.
vous avez très certainement reconnu le groupe ABBA.
ABBA, oui. Hein.
Et c'était la version francophone de la chanson Waterloo.
Je pense que c'est la seule qu'ils ont faite en français. Je pense. Mais en tout cas, ça me faisait le plaisir de vous la présenter aujourd'hui, cette chanson donc de Waterloo. Oui. Hein. Alors, en fait, Waterloo, ça me rappelle aussi que c'était peut-être la bataille de Waterloo pour les Blue Jays à Toronto. Ouh, qui ont perdu la Coupe mondiale.
Ah, ben j'avais pas le résultat. Moi, j'ai regardé les élections municipales.
Oui, ça a été peut-être le Waterloo de Projet Montréal, justement. Montréal, la nouvelle mairesse Soraya Martinez-Ferrada d'Ensemble Montréal, qui a remporté les élections municipales, mettant fin à l'ère Projet Montréal. L'ex-député et ministre fédéral a été facilement élu hier avec 43 % des voix. Elle succède à Valérie Plante comme première magistrate de la métropole. Son principal adversaire, Luc Rabouin, de Projet Montréal, a terminé deuxième et a annoncé qu'il quittait la chefferie de son parti. Soraya Martinez-Ferrada a souligné l'aspect historique de sa victoire, acceptant ce mandat avec beaucoup d'humilité et d'émotion en tant que première personne issue de la diversité élue à la mairie de Montréal. Ensemble Montréal obtient aussi une très mince majorité au conseil municipal. Ben, allons dans d'autres villes du Québec. Victoire éclatante de Bruno Marchand à Québec. Le chef de Québec Fort et Fier a été réélu pour un second mandat à la mairie avec une confortable avance. M. Marchand a été déclaré vainqueur rapidement, récoltant 49 % des voix. Son parti Québec Fort et Fier a également remporté le pari d'obtenir une majorité claire au conseil municipal, étant en avance dans 18 des 21 districts. Donc, le projet de tramway, ça va certainement aller de l'avant maintenant. Et puis, à Laval, Stéphane Boyer réélu. Victoire écrasante de Catherine Fournier à Longueuil. Et même son parti remporte tous les districts. Donc, il n'y a aucune opposition d'élus à Longueuil. L'ex-ministre fédéral du Revenu, Marie-Claire Bibeault, devient mairesse de Sherbrooke. Maude Marquis-Bissonnette réélu à Action Gatineau, donc majoritaire à Gatineau. Jean-François Aubin est élu maire de Trois-Rivières. L'ex-ministre... être en politique fédérale, ça fait élire. Hein? Alors, l'ex-ministre conservateur Stephen Blainey est le nouveau maire de Lévis. Puis il semblerait que d'être un ancien ministre ou une ancienne ministre provinciale de la CAQ, ça marche pas. André Laforêt a été défaite par Luc Boivin. C'est une très, très mince avance. Il pourrait donc y avoir un recomptage là dans Saguenay. Une nouvelle très importante ici, le géant minier Glencore envisagerait de fermer sa fonderie Horn à Rouyn-Noranda et la raffinerie canadienne de cuivre à Montréal, la plus importante opération de production de métal de cuivre au Canada. Selon des sources, la raison principale serait les coûts de modernisation et les pressions environnementales, incluant un procès pour les émissions d'arsenic de l'usine. Les travaux requis pour rendre les installations sécuritaires pourraient dépasser les 200 millions de dollars. Bien qu'un porte-parole de Glencore nie pour l'instant toute intervention d'intention de fermeture, il reconnaît que la fonderie et la raffinerie font face à d'énormes pressions financières et réglementaires. La fermeture de ces sites, qui emploient plus de 1000 travailleurs, pourrait accentuer les craintes de pénurie mondiale. Bon, pour un petit peu reposer la voix quand on a des petits problèmes comme ça, alors je continue le devoir. Contenu partenaire du 1er novembre, l'ONG Humanité et Inclusion Canada lance un appel au gouvernement fédéral pour qu'il augmente son engagement en faveur des personnes vivant avec un handicap dans le monde. Environ 15 % de la population mondiale vit avec un handicap. L'organisme souhaite qu'Ottawa consacre une proportion similaire de son budget de développement international à cette cause essentielle. Cependant, Humanité et Inclusion Canada, qui est présente dans près de 60 pays, y compris dans les zones de conflit et après des catastrophes naturelles comme le récent séisme au Maroc, subit elle-même d'importantes coupes dans son financement. La directrice générale Anne Delorme exprime sa vive inquiétude à l'approche du prochain budget fédéral, craignant que le gouvernement ne privilégie les investissements en défense et la relance économique du pays au détriment de l'aide internationale. Ces restrictions ont déjà eu des conséquences concrètes. L'ONG a dû procéder à des mises à pied et fermer des centres de réparation de prothèses. Malgré ces défis, l'organisation promet de maintenir sa mission de promotion et de l'inclusion et sa lutte historique pour l'interdiction des armes de guerre. un travail qui lui a valu le prix Nobel de la paix en 1997. Selon TVA Nouvelles, 1er octobre, les services de soutien à domicile au Québec sont en crise. Selon le ministère de la Santé, les heures de soins ont chuté de 14 % en un an. Une baisse qui inquiète Alison Green, cofondatrice de l'Association des soins à domicile, qui craint une augmentation des hospitalisations et de l'occupation des CHSLD. Malgré une intervention gouvernementale l'an dernier pour établir l'équilibre budgétaire, la situation sur le terrain empire, selon Mme Green. Elle dénonce l'approche qui priorise les agences de placement au détriment d'un jumelage adéquat entre les soignants et patients. L'association rappelle l'urgence d'une politique nationale sur les soins à domicile promise par la CAQ, une politique retardée par le remaniement ministériel. Alison Green souligne que 92 % des aînés souhaitent rester chez eux le plus longtemps possible et que le soutien à domicile est essentiel pour bonifier l'écosystème familial qui les entoure.
Je pense à tout, je fiaille où je suis et j'hallucine. C'est ton écho qui touche ma peau, ton nom me suit et j'hallucine. Tu vivais dans les estras, mais c'est pas ta faute. Tu cherchais ton reflet dans les regards des autres. T'es passé par tous les stades et c'est pas ta faute. Réécrire ton histoire pour le premier rôle.
La chanson Hallucine de Megan Oak.
On va maintenant aller voir. Mon Dieu, ça c'est-tu plate quand ça fait ça? Nous allons rejoindre maintenant Daniel Rioux. Daniel, on va parler de personnalité. Oups, elle ne m'entend pas. Nous allons vous retourner un petit peu en musique et on vous revient. Bon, il n'y a pas moi, il n'y a pas que moi qui a la voix qui craque, il y a le téléphone qui craque.
C'est-à-dire, quel genre de personnalité suis-je? perdue rien qu'un petit peu.
Alors, qui es-tu, Daniel?
Oh my, qui êtes-vous aussi, hein? Parce que là, je vous cause de personnalité aujourd'hui. Et puis, c'est intéressant parce qu'on se demande toujours qui nous sommes. C'était dans le magazine Ça m'intéresse, et c'est août 2022, mais c'est un sujet qui est quand même intemporel. Donc, notre personnalité dépend d'une subtile alchimie entre 30 facettes qui fait de chacun de nous un être unique. J'aime bien le mot unique. Quelle est-elle? Comment se construit-elle, cette fameuse personnalité? Ben, tout d'abord, on cherche tous instinctivement à catégoriser les individus que nous rencontrons en fonction de ce que nous savons ou de ce que nous percevons d'eux. C'est-à-dire, ben, un tel est gentil ou impulsif, un autre est colérique, une autre personne, elle est tendre, lui, il est passionné ou elle est passionnée. Alors, il semble, c'est un besoin naturel qui nous permet d'avoir des images cohérentes et consistantes des personnes qui nous entourent, affirme Michel Hansen, qui est directeur du service de psychologie de la personnalité et des différences individuelles de l'Université de Liège en Belgique. Nous pouvons ainsi prédire le comportement de nos proches sur la base de ce que nous savons de leur personnalité. Alors, les mots que l'on emploie, la musique que l'on écoute, l'intérieur de notre maison ou de notre bureau en disent souvent long sur qui nous sommes. C'est ce que pense et aussi ce qu'on a pu constater d'après des études menées par le psychologue américain Sam Gosling. Les individus créatifs, donc, ne possèdent pas forcément plus de livres que les autres, on donne ceci comme exemple, mais leur lecture couvre une plus grande variété de sujets. Ça les caractérise. Ou encore, le bureau d'un employé garni de décorations, de bibelots et de bonbons qui rendent le lieu plus accueillant révèle que c'est une personne qui a plutôt un caractère extraverti. Il y a aussi notre voix, hein, Denis Martin, nous trahit. Aussi, en moyenne, plus notre voix est grave, plus on est dominant et extraverti. Dans votre cas, ça vous touche pas trop parce que vous avez un rhume. Hein? Quand on a un rhume, c'est différent. Alors, dans cette recherche-là, les hommes et les femmes avaient été séparés. C'est ce qu'on en dit de cette voix, du genre de voix que l'on a, ça provient d'une étude de 2021 qui a été réalisée à l'université, dans une université en Allemagne. Mais ce sont sans doute les réseaux sociaux qui nous mettent le plus à nu. Car en 2015, des chercheurs de l'Université de Cambridge au Royaume-Uni ont montré qu'un ordinateur explorant le profil Facebook d'une personne et s'intéressant notamment aux « j'aime », les « likes » laissés sur le réseau social, connaissait mieux sa personnalité que ses collègues ou amis. Et selon d'ailleurs cette étude, apprécie Salvador Dali où la méditation révélerait par exemple qu'on a une grande ouverture d'esprit. Donc jusqu'à Facebook, on peut voir le genre de personnalité que l'on a. Le caractère commence très très tôt, même voire commence à se forger dès la vie utérine. Se connaît-on bien soi-même, comme l'enjoint le célèbre maxime attribué à Socrate? Ben oui, mais on a tendance aussi à minimiser certains traits négatifs qui oseraient se revendiquer odieux et à exacerber les positifs à l'instar de la générosité. Ça, je trouve ça intéressant. C'est ce qu'indique Michel Hansen, qui est auteur d'ailleurs d'un livre « Psychologie de la personnalité » qui a été édité en 2021. Donc, c'est une lecture qui pourrait être récente pour vous avec des études récentes. Pour nous percer à jour, les psychologues intègrent dans leur questionnaire des items de validité, donc pour voir ce que je viens de dire. À la question, vous arrive-t-il de mentir? Qu'est-ce que vous répondriez, Denis Martin?
Je suis pas très bon menteur.
OK.
Alors, ça m'arrive de mentir, là, parce que des fois, on veut cacher des choses, une surprise, un cadeau. Et habituellement, je me rappelle pas de mon mensonge. Alors, quand je reviens pour parler des choses, je me trompe. Et là, on découvre justement que je suis pas un bon menteur.
On découvre le pot aux roses. Alors, faites-vous la question, justement, vous arrive-t-il de mentir? Ben, tout le monde devrait déclarer oui. hein? Et à la phrase, tous les jours, je lis tous les titres de tous les journaux. Est-ce que vous, vous lisez tous les titres de tous les journaux?
Non.
Bon, vous êtes pas un menteur, vous êtes un bon garçon. Donc, chacun devrait répondre faux. Mais c'est pour bien paraître, des fois on va dire « Ah oui, 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 hein ». Dans le cas contraire, la personne est sans doute portée à donner des réponses socialement désirables. Mmh. Quand on change nos réponses parce qu'on veut être désirable, on cache des petites choses. Parmi les échelles d'évaluation utilisées aujourd'hui, la méthode dite des Big Five fait l'unanimité. Elle décrit la personnalité via 5 dimensions, plus ou moins développées selon les individus. Donc, dans ces 5 dimensions-là, on a l'extraversion, il y a le caractère consciencieux, il y a l'agréabilité, le névrosisme, c'est-à-dire le névrosisme, ça veut dire c'est une personne qui a tendance à ressentir des émotions négatives, là. Et l'ouverture, elle-même déclinée en 6 traits plus subtils. L'ouverture, c'est l'ouverture aux rêveries, à l'esthétique, aux sentiments, aux actions, aux idées et aux valeurs. Donc, on fait preuve d'ouverture à ce moment-là. Nous forgeons chacune de ces facettes pendant les 30 premières années de la vie, mais elles apparaissent dès la vie utérine. Il y a des choses visibles lors de l'échographie. Exemple, un enfant qui bouge beaucoup a de fortes chances de rester assez dynamique après sa naissance. De même, un jumeau qui tape sur son frère gardera bien souvent l'ascendant sur lui. Il s'agit de manifestations. Ça, on parle de quand on fait une échographie et qu'on voit là, le bébé dans l'utérus. Il s'agit de manifestations précoces de certains traits d'origine génétique. C'est le tempérament. Le milieu ambiant dans lequel se développe le fœtus, tout ce que la mère transmet par le corps, joue un rôle aussi important puisqu'il favorise l'expression de certains gènes au détriment d'autres. Identifier les gènes impliqués dans la personnalité reste toutefois une gageure tant elle dépend de très nombreuses variations. Plus un enfant grandit, plus l'influence familiale se réduit. Et ça, c'est de même, la part héritée de la mère et celle issue du père relève toujours d'une mystérieuse alchimie, ce qui explique en partie les différences dans la fratrie. On a déjà pensé à notre famille, à nos frères et sœurs, en partie seulement car la génétique n'est pas la seule à jouer un rôle. Alors, d'après les études menées depuis les années 70, notamment sur les jumeaux monozygotes, c'est-à-dire ceux qui proviennent de la division d'un unique œuf fécondé, chaque trait de personnalité est influencé à 40% par des facteurs génétiques et à 60% par l'environnement.
Ah bon?
Hein, c'est intéressant, c'est ce qu'indique Michel Hansen. Les traits se transmettent dans différentes proportions. Par exemple, la recherche de sensations est héritable à 65%, l'extraversion à 49% et l'agréabilité à seulement 12%. Le cadre aussi dans lequel on évolue module fortement les prédispositions génétiques. Mais certes, les enfants deviennent plus consciencieux et plus ouverts quand leurs parents partagent des activités avec eux, leur offrent des livres ou les emmènent au musée. Mais, contre toute attente, le cercle familial ne pèse guère parce que les études révèlent que des jumeaux monozygotes se ressemblent autant qu'ils aient grandi ensemble ou pas. L'influence environnementale qui a le plus d'impact sur notre personnalité est l'environnement non partagé, c'est-à-dire les expériences uniques que chacun fait à l'école avec ses amis. Plus un enfant grandit, plus le poids de l'héritage familial s'amenuise. D'autant que les jeunes se ressemblent, ont tendance à se regrouper, hein, ce qui renforce certaines facettes, comme la recherche de sensations fortes. Néanmoins, parmi les traits les mieux expliqués par le cercle familial, figure l'évitement du danger ou la disposition aux rêveries, selon une étude de 2013 de l'Université du Missouri. Au-delà de nos expériences, l'époque dans laquelle nous vivons se répercute sur chacun. Hein? Alors, entre, selon des études qui ont été élaborées entre 1998 et 2016, on a remarqué, en moyenne, nous serions devenus moins extravertis, moins agréables et moins ouverts. Par exemple, le score en névrosisme, ceux qui ont tendance à entretenir des émotions négatives, qui ont une instabilité émotionnelle, est passé de 94% à 106% en 20 ans chez les 18-24 ans. Et un effet des crises, ben, c'est pour autant notre personnalité n'est pas figée. Un colérique ne deviendra sans doute pas un être calme, mais en fonction des circonstances, il peut apprendre à maîtriser ses emportements. Et malgré l'héritage génétique et l'influence de notre environnement, pas toujours choisi, chacun de nous garde une petite marge de manœuvre sur son caractère. Donc, on peut avoir un petit contrôle sur son caractère et sur sa personnalité. On peut même aussi modifier ou améliorer sa personnalité. Mais il y en aurait encore long à vous dire, mais je pense que le temps va nous manquer.
On arrive à la fin, oui.
Ben oui. Je pourrais peut-être poursuivre la semaine prochaine, regarder, fouiller, peut-être trouver des éléments qui pourraient être intéressants.
Les tests de personnalité, il y a pas une religion qui fait ça aussi, les scientologistes, je pense, qui font des tests de personnalité.
Ah, bon, ouais,
c'est
ben,
une autre histoire.
Une autre histoire. Fait que je vous souhaite de vous guérir. Hein?
Oui, parce que la semaine prochaine, je reviens le lundi, là, c'est déjà connu.
Parfait.
Et d'ici là, j'aurai le temps de retrouver la voie. C'est beaucoup mieux que c'était il y a 4 jours, promis.
Ben, quel plaisir de vous retrouver en santé. Alors, bonne semaine à tous.
Merci beaucoup. Alors, nous, on va continuer après la pause. On va parler de la grande démesure de Interling. Interling qui soutient les personnes qui sont de la diversité sexuelle et de genre par une ligne téléphonique qui a des grands besoins financiers. Et donc, c'est une activité qui va l'aider. Mais aussi, on va parler de la pièce Pour Maël avec le comédien Ahmed Hamdan. À tout de suite.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot. Titre de cette chanson d'Ariane Moffat, Amour pluriel.
Qu'elle a écrite pour la Fondation Émergence, donc pour le 17 mai cette année, pour justement rappeler l'importance de reconnaître les diversités d'orientation sexuelle et de la pluralité des genres. Alors, Interling, on va parler d'un autre organisme qui est relié, mais Interling, c'est 45 heures de solidarité auprès des personnes de la diversité sexuelle et de genre et de leurs proches grâce à des services d'aide, d'écoute et de sensibilisation disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Interling s'apprête à tenir un événement bénéfice majeur, la Grande Démesure 2025. Un événement crucial, car comme pour bien d'autres organismes communautaires, que ce soit LGBTQIA+, ou non, le financement gouvernemental n'est pas au rendez-vous. Hélo Gauthier-Lamothe est coordonnateur des communications chez Interling. Bienvenue à l'émission.
Merci beaucoup de me recevoir.
Ben, c'est un plaisir, c'est important d'en parler. 9e édition de la Grande Démesure. C'est spécial cette année parce qu'on célèbre le 45 ans de Interling. Qu'est-ce que cet anniversaire représente pour l'organisme?
Écoute, ben c'est comme tu dis, c'est une double célébration parce que non seulement on célèbre une autre Grande Démesure, presque le 10 ans, donc l'année prochaine, ça va peut-être être encore plus gros, mais le 45 ans, c'est ça, c'est... Avant, c'était Gay-Écoute, maintenant, c'est Interling, mais la mission reste la même, qui est de soutenir les personnes LGBTQ+. Puis là, ça montre qu'on est là depuis 45 ans, puis on est un... C'est pour pas dire le plus vieil organisme communautaire LGBTQ+, au Québec. Et donc, ça montre que notre mission est... entièrement crucial parce qu'on est là depuis 45 ans, on aide les populations depuis 45 ans, on a fait différentes choses justement pour célébrer ce 45 ans-là. Je ne sais pas si tu as vu passer, là, en début de l'année, on a fait un sondage avec Léger, énorme sondage pan-canadien pour évaluer la santé mentale des personnes LGBTQ+, au Canada.
Et ça ne va pas bien.
Ça ne va pas bien, malheureusement. Ouais, c'est, honnêtement, ça a été assez choquant, les résultats de ce sondage-là, en termes de santé mentale, mais aussi d'accès aux ressources, d'accès aux services pour ces populations-là qui ont de plus en plus besoin d'aide. Puis on le voit aussi même dans la montée de la haine, la montée des crimes haineux envers les personnes LGBTQ+. Donc, tout ça, c'est un amalgame de situations qui ne vont pas bien. Et ça montre que les besoins sont...
Ça montre que le contexte n'aime peut-être pas la situation.
Pas du tout.
Bon, la Grande Démesure, là, je n'ai toujours pas compris qu'est-ce que c'est.
Oui, excuse-moi, on retourne à le plus festif.
Non, mais non,
c'est ça, mais en fait, la Grande Démesure, c'est l'événement bénéfice annuel d'Interling. Donc, à chaque année, on organise une grosse soirée au mois de novembre. Oui. Cette année, c'est le 14 novembre, c'est au Bungalow, une nouvelle salle événementielle pas loin de la station Charlevoix à Montréal. Okay. Donc, c'est une grosse soirée où ce que les gens achètent leurs billets puis ils ont accès à des jeux, du divertissement. Fait qu'on essaie de rendre ça agréable pour ces personnes-là, mais en même temps, chaque dollar amassé dans cette soirée-là va à Interling.
OK.
Donc, les gens viennent, ils ont du plaisir, ils jouent à des jeux, ils voient des prestations, mais ils savent que l'argent qu'ils donnent lors de cette soirée-là, l'argent qui est amassé, ça s'en va directement pour soutenir la mission de notre organisme. Fait que c'est comme tout le monde est gagnant. C'est comme soutenir une bonne cause tout en ayant du plaisir. Là.
J'ai vu passer sur les réseaux sociaux une liste de personnes qui seront présentes.
Ouais.
Pourquoi? Comment choisir ces gens-là?
Notre équipe de rayonnement, c'est ça, c'est des personnes qui ont à cœur notre organisme, qui ont à cœur notre mission. On essaie d'aller chercher des personnes de tous les milieux. Fait qu'il y a des gens du milieu corporatif, milieu des affaires, milieu communautaire. Puis on a des gens plus de l'influence qui, eux, aident à porter notre message de justement c'est quoi la Grande Démesure, à quoi ça sert. Fait que cette équipe-là, on essaie d'aller... c'est des gens d'âge varié, de milieux variés. Et c'est des gens qui vont utiliser leur réseau, leur plateforme, pour parler de la mission d'Interling et pour parler de la Grande Démesure, en fond.
J'ai vu quelques noms que je connais, Villain-Alexis. Ouais. Je pense que Barbada est là aussi cette année.
Oui, Barbada est très impliquée dans l'organisation de l'événement cette année aussi. Elle aide à aller chercher les artistes, à organiser une soirée vraiment démesurée, si je peux dire.
Barbada est très bonne dans la démesure.
On l'adore, Barbada.
La Grande Démesure, donc, c'est une levée de fonds essentielle.
Exact.
Concrètement, on fait quoi avec l'argent chez Interling?
C'est une bonne question. Ben, écoute, cette année, il y a deux grands projets chez Interling. Par projet, je veux dire, c'est des façons de soutenir Interling dont le financement va venir à terme en mars. Donc, c'est des projets que si on n'a pas un soutien, que ce soit du gouvernement ou par nos dons privés, nos corporations, tout ça, il y a des projets qui vont cesser d'exister chez Interling. Il y a des programmes qui vont devoir cesser
d'exister. Je me rappelle, il y a peut-être un an ou deux, on devait fermer le service de nuit.
Exactement. Il y a beaucoup d'argent de la Grande Démesure qui va aller dans la ligne d'écoute, la ligne d'écoute 24/7 d'Interling, qui est, comme tu as dit, c'est un peu le cœur battant de l'organisme, mais aussi de l'argent qu'on va réinvestir dans... Ça vient toujours au soutien à la mission, qui est de faire vivre nos programmes, nos services... T'en as nommé tantôt, là, on a de la relation d'aide, on a des programmes de formation pour les jeunes, pour les professionnels. Fait que, tu sais, ça, c'est tout réinvesti par et pour les communautés LGBTQ+.
Le défi est majeur. Comme beaucoup d'organismes, je l'ai dit en entrée de jeu, on parle de sous-financement, de mal-financement, financement par projet, non pas à la mission.
Voilà.
Ça se présente, c'est quoi le portrait chez Interlink présentement?
Écoute, c'est sûr que c'est difficile comme pour tous les organismes communautaires et encore plus pour tous les organismes communautaires LGBTQ+, parce qu'il y a comme une couche de plus où il y a encore plus un mal-financement, comme tu as dit. Puis ce qui est difficile avec Interlink, c'est que d'un, on est une petite équipe, mais de deux, ces gens-là qui travaillent sont tout le temps en train de, si je peux dire, courir après l'argent. T'sais, parce qu'une fois qu'on a un financement, oui, OK, c'est bon, on l'a, mais on l'a pour un, deux, max trois ans, comme ça a été le cas avec la ligne d'écoute. Fait qu'après, on est toujours en train de refaire ces demandes de subventions-là. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, puis c'est du temps qu'on aurait pu investir à justement bonifier nos services, à utiliser ce temps-là pour faire d'autres choses que de courir après de l'argent, tu sais. Donc, en ce moment, c'est la situation, je dirais, qui est critique. On a besoin de plus de financement du gouvernement à tous les paliers, là, vraiment.
Et ça s'annonce pas bien parce que la présidente du Conseil du Trésor, Francine Duranceau, vient d'annoncer qu'on va, pour quelque temps, geler les montants d'argent qu'on envoie là, pour une couple de semaines.
Oui, fait que là, c'est sûr que ça augure mal. Nous, on est en train déjà de faire des démarches pour aller vraiment varier nos demandes de financement, que ce soit auprès de grandes corporations. Oui, c'est sûr, on a le programme Femmes et égalité des genres là, qu'on applique à chaque année, le PSOC, entre autres. Avec tous des grands projets, mais qu'il faut quand même se battre à chaque année pour prouver qu'on a besoin de cet argent-là, alors que toutes les données montrent que le communautaire et le communautaire queer manquent cruellement de fonds. Donc, c'est vraiment comme une lutte sans fin, là.
Et tout ça au moment où le contexte n'est vraiment pas facile. On l'a dit tout à l'heure. Est-ce qu'on va voir à un moment donné une porte de sortie à ça?
Écoute, j'ai pas la réponse à ça, mais plus on se mobilise, puis plus on fait des grosses campagnes, par exemple celle que tu as parlé, là, que Interlink est sortie, il y avait des panneaux, des grands panneaux là, sur le pont Jean-Cartier, tout ça pour montrer que notre ligne d'écoute se meurt, puis il faut que le gouvernement se réveille. Ça, on n'écarte pas l'idée de retourner dans la rue puis de faire des grosses actions comme ça pour sensibiliser, parce qu'on dirait que les gens oublient. Oui, on a cherché notre financement, mais le 3 ans est déjà échu, là. On finit, fait qu'il faut tout recommencer. Fait que c'est de rappeler aux gens qu'on a toujours besoin d'eux, on a besoin du gouvernement, puis ça, à chaque jour, chaque année, tout le temps.
Alors, l'événement se veut rassembleur pour célébrer. Qu'est-ce qu'on veut voir à cette fête? Comment on peut se procurer les billets?
Ah ben c'est pas compliqué. Là. Cette année, j'ai oublié de le mentionner, mais la soirée est présentée par Desjardins aussi. Puis je veux aussi remercier Nouveau Standard, qui est notre service de traiteur qui nous soutient très généreusement depuis plusieurs années. C'est pas compliqué. On va dans les réseaux sociaux d'Interlink. On a Instagram, Facebook, le lien de la billetterie est là. Et sur notre site internet, interlink.co, la billetterie est tout de suite accessible. Donc, on peut se procurer des billets de groupe, tout ça. Il faut venir en grand nombre. Là.
En grand nombre. C'était combien d'argent l'an dernier que vous avez ramassé?
L'an passé, on était à 175 000 $.
Quand même.
Cette année, on
vise... une soirée.
Ouais. Oui. C'est une soirée de 400 personnes. Là. Fait que, tu sais, on veut amener du monde. Cette année, on vise 400 personnes, 200 000 $. Puis tout cet argent-là, comme j'ai dit, va directement à soutenir la mission d'Interlink.
Hello, Gauthier Lamotte, coordonnateur des communications chez Interlink. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Merci.
On va sauter line-up et prendre un verre au Yoko Bar. Es-tu entré déjà? J'ai hâte de te revoir, c'est ton party de bureau. Je vois que t'es pas seul au comptoir. On m'invite au banquette, c'est l'apérole en arrivant. Je suis contente d'être là, tes collègues sont fins. Finalement, c'est ton party de bureau. Toi, tu es où? Je ne te vois pas. Les envies coulent à flot, on devrait partir bientôt. Le Vogue Hotel est à deux pas, j'ai une belle surprise juste pour toi. Tu es sur la piste de danse, je sais comment ça va finir. Toutes les belles se déhanchent, toi tu peux t'attendre au pire. Une heure que je suis là et l'atmosphère est stupéfiante. Elle me dit ficelle, elle te tourne autour comme ta gérante. C'est ton party de bureau, mais c'est moi la plus amusante. Veux-tu voir mon cadeau? Je vais chercher ton manteau. Il fait trop chaud, sors ton
dis si j'ai du boulot pour toi toute la nuit. T'es sur la piste de danse, je sais comment ça va finir. Quand les belles se déhanchent, toi tu peux t'attendre au pire. J'y vais prendre de l'air, mais la sécurité m'envoie jouer ailleurs. Peux-tu venir me chercher, c'est ton party de bureau. J'avais un déshabillé, je vais te montrer, j'ai le cœur gros. Viens sur la piste de danse, je sais comment ça va finir. Toutes les belles se déhanchent, toi tu peux t'attendre au pire. Tu es sur la piste de danse, je sais comment ça va finir. Ouais, c'est ton jour de chance.
Salut Folk, party de bureau.
Comédien diplômé de l'UQAM, on l'a vu récemment dans la web-série La dernière communion, mais c'est tout d'abord pour son premier texte dramatique pour Maëlle. Kamad Hamdan est avec nous. Cette comédie romantique lumineuse est présentée par le Théâtre Everest à la Petite Licorne jusqu'au 28 novembre 2025. Et ça nous plonge dans l'histoire d'Ali, un jeune homme issu de l'immigration qui tombe amoureux de Maëlle, une artiste d'un milieu plus aisé. Hamad, merci d'être avec nous.
Ben, ça fait plaisir.
Alors, quel a été l'élément déclencheur ou l'étincelle là, qui vous a poussé à écrire cette histoire en particulier?
Il y a deux éléments un peu, je vais faire ça résumé, mais l'étincelle de vouloir écrire, parce que moi, j'avais jamais eu cette idée dans ma vie d'être auteur, d'écrire des textes, mais je voulais être acteur, puis je suis allé à l'école de théâtre, et puis en sortant de l'école de théâtre, j'ai commencé à travailler, à recevoir des propositions de rôles, de projets, etc. Puis je rêvais que tout ce qu'on fait, quand on fait du théâtre, tout ce qu'on fait, quand on fait de la télé, du cinéma, c'est toujours fantastique, mais j'ai réalisé que des fois, ça me parlait pas trop, les sujets, les histoires qu'on racontait, etc. Fait que je me suis dit, la seule manière d'avoir un rôle qui te va, qui te plaît vraiment, c'est de l'écrire toi-même. Donc ça a été l'étincelle d'écrire une pièce de théâtre. Et puis, ça a commencé dans un festival de courtes pièces qui s'appelle le Festival tout court. J'ai écrit une pièce de 9 minutes, 8 minutes. C'était un monologue où je faisais un peu tous les personnages. Donc, c'était un peu cette histoire-là. C'est un jeune homme qui vient du « hood », entre guillemets, qui vient de Montréal-Nord, qui rencontrait une fille d'Outremont. Et puis, il essayait de lui faire croire qu'il habitait à Huntsic parce que ça fait un peu plus cute. Bref. Et ce court texte-là qui avait bien fonctionné, je me suis dit, hey, je pense qu'il y a quelque chose à faire avec ça de plus long. Et donc là, j'ai creusé dans des thématiques un peu plus larges, plus universelles, tout ce qui est la question du transfuge de classe, de la reproduction sociale, etc. Mais toujours, j'ai voulu raconter l'histoire de quelqu'un qui vient d'un milieu, mais qui va dans une toute autre direction. Puis explorer un peu c'est quoi les facteurs, c'est quoi qui fait en sorte que ça arrive dans le monde.
Donc, c'est une pièce qui est inspirée de votre parcours, hein? Artiste issu d'une famille immigrante libanaise. Comment on fait la balance entre l'autofiction et la fiction pure pour construire un récit universel comme celui d'Ali?
Ben, dans le cas qui nous intéresse, c'est vrai que je me suis inspiré de ma vie, mais c'est vraiment une fiction. Mais donc, dans ce cas-là, je dirais que c'est une fiction auto, comment dire ça? C'est-à-dire que c'est plus fiction qu'autofiction. Mm-hmm. Mais c'est sûr que j'ai fait un paquet de parallèles avec ma propre vie. Mais la fiction m'a permis aussi d'aller dans quelque chose de plus large, de parler aussi de moi, mais pas juste moi, de d'autres gens. Dans ce Ali, moi plus jeune, mais il y a aussi d'autres gens qui sont dans ma famille ou d'amis à moi que j'ai connus, etc. Dans l'autre personnage de Abdel, il y a aussi du monde que, oui, c'était mes amis, mais il y a aussi du monde dans ma famille, tout ça. Donc, pour répondre à ta question, je pense que la fiction, ça aide beaucoup parce que t'es comme, faut juste être crédible et réaliste, mais là, c'est plus grave si c'est pas exactement ça, parce que le but, c'est juste qu'on puisse connecter avec les personnages et l'histoire.
Ali, donc, c'est un rêve de s'intégrer Est-ce qu'il rêve de s'intégrer ou il a besoin d'être aimé par Maëlle? C'est quoi qui le pousse à vouloir faire cette transcendance ou transfuge de classe?
Il y a du monde qui disent que dans la vie, il y a beaucoup de choses qu'on fait parce qu'on veut être désiré pour... Là, je vais dire ça un peu grossièrement. Oui. Il y a une manière plus classe de dire ça, mais pour coucher avec du monde, là, il y a du monde, c'est comme, ils se mettent à chanter, ils se mettent à jouer de la guitare, ils se mettent à jouer de la guitare, du drum. Puis c'est parce qu'ils veulent être attirants pour le sexe opposé.
C'est une bonne raison.
Puis ça commence comme ça pour Ali, mais sauf qu'après, puis comme dans tout aussi, on commence comme ça, mais après on découvre, hey, c'est le fun, ça peut devenir une passion, ça peut être une vocation, tu découvres le truc. Fait que pour lui, ça commence comme ça, mais après, il réalise que, hey, c'est vraiment une vie plus intéressante, plus que Ali cherche, plus que de travailler de ses mains, il veut travailler de son esprit. Mm-hmm. C'est ça qui l'attire, en fait. Il voit ça un peu comme, hey, j'ai arnaqué le système, moi, j'ai pas besoin de me casser le dos. Ouais. Moi, j'ai juste besoin de m'asseoir dans un atelier puis réfléchir à des trucs. Bon, pas après, il découvre que c'est pas aussi simple que ça, mais c'est ça ce qui l'attire au début.
Il y a une question, je pense que la pièce se pose. Est-ce qu'on peut changer de condition sans perdre son authenticité?
Je pense que oui, mais c'est juste qu'à un moment donné, au début, tu vas te faire croire que t'es quelqu'un d'autre. Puis tu vas te faire croire... Tu veux plaire à ton nouveau milieu, donc forcément, tu vas rejeter un peu ton passé et tout. C'est sûr qu'il va avoir une passe de quelques temps, des mois, des années. Il y a des gens qui en sortent jamais. Mm-hmm. Puis après, tu te façonnes, puis t'es comme, OK, ça, c'est moi. À un moment donné, tu réalises, OK, ça, c'est moi. J'étais ça, je suis devenu ça, mais là, je suis revenu ça. Fait que ça prend un peu de temps.
Alors, pratico-pratique dans la pièce, quel est le prix à payer pour Ali, sans divulgâcher, mais quand même, lorsqu'il essaie d'apprivoiser les codes des vernissages, je pense qu'il était cité dans le communiqué de presse, vernissage hermétique et des buvettes branchées.
Pour ne pas divulgâcher, je pense que le prix à payer, c'est que c'est des compromis. C'est comme tout dans la vie. Des fois, on veut obtenir quelque chose, mais on n'a pas 100% ce qu'on veut obtenir. On a des petits compromis. Ils réalisent que ben, ce milieu-là, le milieu des arts, etc., ils ont une vision, ils ont des attentes. Ils veulent parler de certains sujets que lui, c'est peut-être pas ça qu'il s'imaginait. Mais quand il se fait dire, qu'on va pouvoir obtenir tel résultat, soit financier ou quoi que ce soit, il embarque, puis il dit « OK, ouais, c'est pas grave ». Fait que c'est comme un peu... Au début, il y a une affaire d'une question de se vendre, puis on fait pas toujours tous les projets qui nous plaisent, trucs, mais on n'a pas d'argent, fait qu'on a besoin de gagner notre vie, quoi.
Donc, on a choisi la comédie romantique pour parler de ce thème profond. Pourquoi?
Ça a commencé comme ça, puis la vérité, c'est que c'est pas tout à fait une 100% comédie romantique, mais c'est une comédie romantique pendant un bon bout de temps.
OK.
Je pense que c'était dans le but de plaire à des gens, parce que le théâtre, moi, j'aime ça quand c'est accessible, puis j'aimerais ça que... En fait, c'est déjà arrivé, mais j'aime ça quand les gens viennent au théâtre, qui me disent « Moi, j'ai pas l'habitude de venir, c'est peut-être la première fois, la deuxième fois, etc. » Même j'ai vraiment trippé puis j'ai hâte de revenir. Ou des gens, justement, du monde des cégeps qui n'ont pas l'habitude de venir au théâtre. Moi, je veux qu'ils restent, là. Je veux pas qu'ils aillent voir une pièce puis qu'ils sont comme « Oh my God, j'ai rien compris, c'est pas pour moi, c'est nul, etc. » J'ai envie de les attirer. Donc, je pense que la comédie romantique, c'est quelque chose que tout le monde connaît puis que tout le monde peut...
C'est assez universel.
Ouais.
Est-ce qu'il y a aussi un appel aux personnes de la communauté de laquelle vous êtes issus? Vous essayez aussi de les amener?
100%, 100%, mais le théâtre est ce qu'il est, puis c'est historiquement pas un art qui est très convoité par les minorités culturelles, mais moi, c'est ça aussi mon but, c'est de faire comme, non, c'est pas un truc de bourgeois, là, c'est genre, c'est un peu cher, mais tout est cher maintenant, les shows d'humour sont chers, les shows de musique sont chers, fait que venez, on raconte nos histoires, puis oui, il y a cet élément-là des minorités culturelles, mais l'histoire de Ali, c'est avant tout... les minorités économiques. Là,
oui,
c'est-à-dire
d'accord.
que Myriam Fugère, qui est la metteur en scène, elle a lu 9 pages, puis elle a tout de suite compris de quoi il en ressortait, même si elle, c'est une blonde avec des yeux bleus, tout ça. Mais elle vient de la Mauricie, d'un petit village, puis son père était boucher, puis chez eux, il n'y avait pas de livres, pas de musique. Puis elle pensait qu'elle ne pouvait pas devenir metteur en scène parce que elle avait pas de trench coat gris puis de cheveux, elle avait pas 65 ans puis un homme avec des cheveux gris. Donc je pense que c'est plus l'histoire de ces gens-là, les laissés pour compte qui sont pas dans le milieu culturel bourgeois. Mais c'est sûr qu'il y a l'élément culturel qui est là, puis qu'on invite tout le monde à venir.
On vient de parler de Myriam Fugère. Il y a aussi le travail des interprètes Samir Firouz, Sarah-Anne Parent, Elisabeth Tremblay. Comment vous avez travaillé pour mettre ce show en place?
On a fait des laboratoires. Ça, c'est cool. Au théâtre, il existe ça. Je résume rapide. Moi, j'arrive au début, j'ai peut-être 9 pages de texte, quoi. Mais par contre, j'ai des idées de scènes. Et donc, on fait des laboratoires où est-ce qu'on fait des impros. Je demande aux interprètes, la metteur en scène demande aux interprètes, « OK, notre scène, c'est qu'on est 2 personnes dans une chicha, café chicha, puis on veut... Il y en a un qui veut s'acheter une BMW sur Internet, puis l'autre, il veut raconter son histoire, puis on part là-dedans, puis après, il y a des belles choses qui sortent, des blagues, etc. » J'enregistre ça, puis moi, je rentre chez nous, puis par contre, je mets de l'ordre, puis je rajoute, puis je crée de la cohérence là-dedans. Fait qu'il y a un peu cet élément-là où il y a des personnages comme Sarah qui a construit elle-même un peu son personnage, mais moi, j'ai écrit ses lignes.
D'accord.
Voilà.
Comment ça s'inscrit dans le contexte actuel? Je pense que là, je vais pas vous surprendre. Il y a quand même un mouvement qui est pas très, très agréable pour les personnes issues de l'immigration ou les personnes racisées. Ouais. Alors, cette pièce-là, comment ça s'inscrit là-dedans?
C'est un petit peu... Il y a un peu des blagues, un petit peu... ce qui frôle sur la ligne et tout, mais bon, comme ça vient du personnage de Abdel, qui est un personnage hyper coloré, puis drôle, puis qu'on comprend que lui, il s'en fout de tout le monde, on dirait que ça passe, parce que ces gens-là existent, du monde qui niaise les politiciens, qui niaise un peu tout le monde. Donc, pour répondre à votre question, c'est présent dans le show, mais on réussit à faire en sorte que c'est bon enfant,
ouais.
C'est cute. Mais c'est sûr qu'il y a une certaine critique d'une certaine idéologie qui est présente au Québec, mais moi, je sais très bien que c'est pas tout le monde qui est comme ça, puis que c'est pas parce que il y a du monde au pouvoir qui vont essayer de nous faire croire que une telle puis un tel, c'est les problèmes de tout dans la société, que tout le monde va embarquer. En tout cas, j'espère que non.
Bon, cette pièce a déjà été jouée. Quel est le retour du public jusqu'à maintenant, ou de la critique?
Super bon, là, ça va super bien. On a joué une semaine. Les gens sont contents. Au début, je pensais que ça allait plus plaire aux plus jeunes et moins aux plus vieux. Mais finalement, il y a des madames, des messieurs 65 ans qui nous écrivent des emails, qui viennent me voir après les shows. J'ai adoré ça. Puis autant aussi des jeunes de 18-19 qui viennent des cégeps qui ont aimé ça. Donc moi, ça m'a vraiment rassuré. C'est une très bonne réception.
C'est une réalité qu'on voit pas beaucoup. Alors, c'est le fun de la voir. Hein?
Ça se trouve, ouais, je pense que oui. Non, c'est le fun. Puis nous, on a plein de fun à jouer ça tous les soirs.
Alors, la pièce, ça va à Ottawa pour en février après ça. Qu'est-ce que vous souhaitez comme suite après?
On aimerait ça. Moi, j'adorerais tourner en région. C'est sûr que c'est un spectacle un peu urbain avec des questions de Montréal, etc. Mm-hmm. Mais moi, j'aimerais aller la Gaspésie. J'aimerais ça, mais bref. Tourner à travers le Québec, j'aimerais beaucoup. Et peut-être reprendre le show à Québec ou quelque part. Ou en tout cas, pour le moment, on est à Montréal, on est là, on profite. Mais c'est sûr qu'aller un petit peu à l'extérieur de la ville, j'adorerais.
Alors, je rappelle que pour Maëlle, une comédie romantique signée Ahmad Hamdan, mise en scène donc par Myriam Fugère, et présentée à la Petite Licorne jusqu'au 28 novembre 2025. Toutes les informations de la billetterie sont disponibles sur théâtrelicorne.com.
Et juste, j'en profite rapidement pour dire, oui. Des fois, ça affiche complet, mais il y a toujours des billets qui se libèrent la journée même, des annulations et tout, appelés à la billetterie à partir de midi.
Des gens qui ont une extinction de voix qui ne peuvent pas y aller.
Voilà.
Merci beaucoup. Après la pause, nous allons parler de Tendresse, le recueil de poésie que vient de publier Hugues Corriveau. Et puis, on s'en va à nouveau au théâtre, cette fois-ci chez Duceppe, pour parler de Corps fantôme, avec deux des co-auteurs, membres du collectif, Maxime Carbonneau, qui fait la mise en scène, et Joe-Philippe Lafortune, comédien.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
J'ai trop rêvé dans ma jeunesse. Aujourd'hui, je lance des SOS. Et je fous ma bouteille à la mer. Je cherche amour, beaucoup de tendresse. Câlin partout, beaucoup de caresses. Ciel toujours bleu, bisous, ça presse. Beaucoup de beaux jours et plus d'hiver. S'abstenir si pas gentillesse. Tendresse, tendresse. Je veux de la tendresse. Je veux du ciel bleu. Je veux des enfants plein la maison, des guitares, des rires, des chansons. Je veux qu'on s'aime, je veux plus qu'on me blesse. Je veux voir encore dans les nuages des grands bateaux, des paysages, des francs mélanges, des grandes plages. C'était mon seul livre d'images. Je cachais mes rêves dans mon cartable, entre mes livres et mes crayons. Des mots d'amour sur toutes les pages. J'ai pas grandi, je suis dans le coton. Tendresse, tendresse, je veux de la tendresse. Je veux du ciel bleu, toujours, toujours. Je veux des enfants plein de maisons, des guitares, des rires, des chansons. Je veux qu'on s'aime, je veux plus qu'on me plaît. Que j'attends depuis que je mange plus de sucre d'orge. Quelque part avec des enfants, cette tête ça leur dit l'autre trésor. Je voudrais voler vers le soleil avec tous ceux que j'aime qui m'aiment. Voler plus loin que le gris du ciel, du côté où la ville est belle. Tendresse, tendresse, je veux de la tendresse. Des guitares, des rires, des chansons. Je veux qu'on s'aime, je veux plus qu'on me blesse. Tendresse, tendresse, je veux la tendresse. La 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 la. Je veux des enfants plein ma maison. Des guitares, des rires, des chansons. Je veux qu'on s'aime, je veux plus qu'on me blesse.
Elton John qui chantait « Je veux de la tendresse ».
Ah oui, mais on va continuer à parler de tendresse, même si ma voix est vraiment pas tendre en ce moment-ci. Figure marquante de notre paysage littéraire, Hugues Corriveau, poète prolifique, a fait paraître près de 40 livres en 47 ans. En plus de ça, il a été critique de poésie au Devoir. Il est avec nous aujourd'hui pour parler de son tout dernier recueil, « Tendresse », une œuvre qui explore la survivance face à la perte. Hugues Corriveau, bonjour, merci d'être avec nous.
Bonjour, moi ravi d'être là, oui.
Alors, j'ai lu ce fabuleux recueil en fin de semaine.
Oh là là, le mot fabuleux, est... je le reçois.
Ben non, on le recevait là parce que c'était touchant. Et d'ailleurs, ça me permet, si vous me permettez, en fait, j'aimerais parler un peu du contexte de ce recueil. Vous me permettez de dire que vous avez perdu votre conjointe récemment?
Oui, effectivement, en décembre dernier, je vivais avec elle depuis 55 ans.
Oh là là, mes condoléances et celles de tout le monde qui nous écoute aujourd'hui. Comment ce triste événement a-t-il marqué votre écriture dans Tendresse?
Ah, Tendresse était écrit avant et pendant les événements, donc ça n'a pas eu d'influence. Je suis en train d'écrire un recueil qui s'intitule « Tombeau de Louise ».
OK.
Et « Tombeau » est un genre littéraire qui rend hommage à quelqu'un. Alors, après la mort de Louise, j'ai senti ce besoin. Alors, ça, c'est un recueil qui paraîtra, disons, sans doute l'an prochain. Mais « Tendresse », c'était quelque chose qui n'avait pas à voir avec le décès de Louise.
Et plus avec le processus dans lequel vous étiez avec elle, là.
Oui, 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 voilà. C'est tout. C'est la façon tout à coup de s'opposer à la grisaille, à ce qui va mal dans le monde. C'est un mot qui a quand même... C'est assez terrible. C'est un mot qui est quand même audacieux ouais. de nos jours.
Tout à fait, tout à fait. La tendresse, oui, tout à fait.
Oui, oui. Voilà,
vous avez confié...
On n'attend pas ce mot-là en titre de recueil et il me paraissait bien aller avec le contenu, en tout cas.
C'est approprié, en effet. Vous avez confié être dans vos morts depuis 4 recueils. Qu'est-ce oui. qui fait que c'est important, là, à ce moment-ci, de parler de ces morts-là? C'est urgent pour vous, là.
Ben, je l'aurais jamais cru, remarquez, hein. Ça ouais. s'est imposé. Ben voilà. Donc, j'ai écouté la voix intérieure qui me disait de parler de ça. Mais effectivement, après le père, après la mère, après ma conjointe, c'était beaucoup et des amis, évidemment, là, bon, à l'âge que j'ai. Mais oui, j'étais entouré, couvert, effectivement, de morts. Puis, je me suis dit, bof. On se pose toujours la question, on se dit, est-ce qu'on ajoute encore de la littérature sur ce thème-là? Puis on a toujours ce petit coin de voix en nous qui nous dit, ben, peut-être qu'il y a quelque chose de particulier à dire, peut-être qu'on peut ajouter des mots à ces terribles faits.
Hugues, vous affirmez que si tu veux pas te mettre à nu, lâche ton crayon. Qu'est-ce que ce recueil vous a demandé émotionnellement comme mise à nu?
Mais c'est extrêmement curieux ce que je vais vous dire. Quand j'écris, je n'ai pas ce phénomène d'angoisse ou de difficulté à parler. Je travaille et la poésie vient au bout de la plume et voilà, les mots viennent. Je n'ai pas de relation d'angoisse avec le sujet que j'aborde. J'essaie de bien aborder ou de l'aborder de façon un peu originale, ce qui fait que beaucoup, très souvent dans mon écriture, j'espère performer en écriture plutôt que de me laisser larmoyer. Non, il y a assez de livres de tendance à vouloir aider le moral du monde et bon, alors, je laisse ça à d'autres. Pour l'instant, non, c'est pas comme ça que ça s'est produit. Ce livre-là s'est produit de la même façon que les autres livres se sont produits. C'est-à-dire, en écriture, vouloir qu'un sujet trouve sa voie. Un livre réussi pour moi est un livre c'est un projet qui trouve sa voie.
En fait, en vous lisant, je n'ai pas l'impression que vous apitoyez sur votre sort, mais en même temps, je ne vois pas non plus les recettes magiques. C'est ce que c'est, voici ce qu'on vit. Il y a une certaine lumière quand même dans ce que vous écrivez.
Oui, 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 tout à fait. J'ai absolument tenu le dernier chapitre la dernière partie du recueil est effectivement titrée de façon positive. Donc, j'y tenais. Ça s'appelle « Les rescapés » et je ne voulais pas terminer par le titre de l'avant-dernière partie qui est là, les affligés. Alors non, je voulais pas rester là-dessus. Je voulais absolument rescaper les lecteurs et moi de cette affre de la mort, en fait.
Vous dépeignez l'écriture comme un acte qui est tout entier tourné vers l'avenir. Mmh. J'ai l'impression qu'on vient d'en parler, mais ça se traduit, ça, dans Tendresse?
Ah, mais je pense, comme vous dites, non, je pense que vous l'avez très, très bien lu, dans la mesure où vous dites qu'il n'y a pas d'apitoiement. Et le fait si on s'en était tenu à regarder le passé, c'est là que ça aurait mené. Tandis que de voir qu'à partir de la mort, il y a toujours quelque chose en avant, et de toute façon, on n'a pas le choix, il reste nous à vivre. Alors j'ai cette impression-là qu'il n'y a pas du tout de larmoiement par rapport à ça, non.
Et en fait, j'ai l'impression que vous êtes en train aussi de dédramatiser la mort, bien que c'est quand même dramatique, mais je pense qu'on des fois, on en met peut-être un peu trop. J'ai l'impression qu'en lisant votre livre, que c'est moins dramatique, c'est ça?
Bien, vous allez être étonné de mon commentaire.
Oui.
Je vais vous raconter. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression, et c'est une expression qui me surprend moi-même, j'ai eu l'impression que Louise m'avait donné le cadeau de sa mort.
Ah!
Alors, le soir de sa mort, elle était dans sa chambre et elle a donné un coup de pied dans le plancher, ce qui voulait dire, bon, viens, et je suis allé. Je l'ai assis sur le lit, elle est morte entre mes bras, Donc, elle m'avait appelé à sa propre mort. Donc, au bout de ça, je me suis comme, pas consolé, mais je me suis dit, elle tenait à ce que j'assiste à son départ et elle me l'offrait en cadeau, ce qui est extrêmement rare. On ne va pas dire que tout le monde vit ça. Alors, cette relation à la mort que j'ai eue avec elle a été extrêmement intime et, je le répète, comme une espèce de cadeau avant qu'elle parte.
Ah, ben merci de partager ce cadeau avec nous. Maintenant, ça m'aide à comprendre un peu plus certains passages de tendresse.
Voilà.
J'aimerais profiter un peu de quelques minutes qui nous restent. Vous avez porté la double casquette d'écrivain et de critique de poésie pendant des décennies. C'est quoi les risques d'écrire de la poésie en sachant que vous serez lu par ceux ou celles que vous avez peut-être vous-même critiqué?
Il faut être mazo. Il y a ça, il faut être mazo, mais il faut aussi avoir une énorme confiance en soi. Et je pense que tout auteur n'a pas toujours la franchise de le dire, mais quand on prend la plume et qu'on décide d'envoyer à un éditeur un texte et qu'on publie, comme vous dites, 40 livres, donc il faut avoir confiance en soi. Donc, ces deux façons de faire que j'ai eues d'action que j'ai eues en littérature, ben il fallait absolument que je l'aie, cette confiance-là, que je puisse me dire, bon, ben voilà, je suis capable de lire, je suis capable d'essayer d'être objectif, et en même temps, ben je donne à lire à d'autres. Un critique du Devoir qui est mort maintenant avait reçu un de mes recueils de nouvelles en commençant sa critique en disant dans ce livre, il n'y a pas une page, il n'y a pas une phrase, il n'y a pas un mot qui soit intelligent. Alors qu'il faut, absolument...
Aïe, aïe!
Oui, alors il faut être capable d'avoir cette relation à, oui, j'ai une voix critique, je parle, mais en même temps, il faut être prêt à recevoir tout ce qui va nous aviser par après. On ne se fait pas aimer en étant critique.
Écoutez, je vais me permettre un cliché, mais j'ai l'impression que je parle à une personne authentique, mais, mais sérieusement, je pense que ça s'applique à ce moment-ci.
Oui, je pense que je n'ai pas grand-chose à cacher, vous savez. Il y a pas... Non, moi, en entrevue ou peu importe, je parle toujours vrai, il me semble.
Vous avez donc annoncé votre retraite. Qu'est-ce qui vous manquera le plus de ce métier qu'on dit souvent incompris?
Oh, pas grand-chose, je vous dirais. J'ai un tel contentement de l'avoir appliqué, de l'avoir fait, de l'avoir vécu, que là, dans l'état où j'étais, où je suis cette année, ça ne valait plus la peine de m'angoisser, de m'obliger à lire des livres, à avoir une voix critique dessus. C'était comme, je peux pas expliquer autrement, j'avais atteint mon mur et j'ai dit, bon, ben voilà, arrête, c'est tout.
Puis il y a un autre recueil de poésie à écrire. De toute façon, vous avez besoin de temps pour écrire, là.
Ah, oh, mais ça, par contre, j'écris la plupart du temps, et ça étonne tellement les gens, j'écris 2 à 3 livres en même temps.
Ah oui?
Ah oui, oui. Donc ça m'a jamais... Travailler à la critique n'a jamais retardé un livre à faire. Non, j'ai un roman en préparation, j'ai un recueil de nouvelles qui paraît le mois prochain chez Main Libre. Ouais. J'ai un recueil de, comme je vous dis, j'ai un nouveau recueil de poésie sur Louise Le Tombeau. Alors non, ça ne me rien. Non, je suis dans un état de normalité. Écoutez, pour publier 40 livres, ouais, il faut être un petit peu constant.
Il faut être certainement discipliné. Hugues Corriveau, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que Tendresse est disponible aux éditions du Passage. Merci.
Bien, vous avez été extrêmement gentil. Ravi d'être avec vous.
Merci.
Au revoir.
La production théâtrale Corps fantôme, présentée chez Duceppe, fait parler d'elle, puis on va en parler aujourd'hui. Une fresque qualifiée d'indispensable par la presse et qui nous plonge au cœur des luttes de la communauté de LGBTQIA+ montréalaise au cours des années 90, en pleine crise du VIH-Sida et de la répression policière. Nous accueillons Maxime Carbonneau, metteur en scène et idéateur de la pièce, et Joe-Philippe Lafortune, comédien. Tous deux aussi sont membres du collectif de 8 dramaturges hein, qui ont écrit le texte. Ben, merci d'être avec nous.
Ben, merci de nous inviter.
Oui, merci beaucoup.
Je vais commencer avec vous, Maxime. Parlez-nous un peu de la genèse de ce projet Corps Fantôme. Comment c'est venu, ça, cette idée-là?
Oui, bien, en fait, c'est parti pendant la pandémie de COVID-19. Qui a créé nécessairement une perspective avec l'autre pandémie, celle du VIH-Sida. Puis je me suis retrouvé pendant la pandémie, ben, comme plusieurs d'entre nous, à être isolé. Puis donc, puis les mesures gouvernementales qui favorisaient les familles biologiques qui pouvaient se réunir puis rester ensemble au détriment des familles choisies, ça m'a un peu frappé parce que j'ai été privé d'amis extrêmement importants pour moi qui ont été aussi des figures de transmission, des figures... j'ai beaucoup d'amis soixantenaires, puis j'ai été privé de leur présence. Puis cette distance-là m'a fait réaliser, en fait, tout ce qu'ils m'avaient transmis. Sur l'histoire de la communauté, sur l'histoire du théâtre aussi. Puis donc, j'ai eu une espèce de désir de collectiviser cette relation unique-là que j'ai avec des amis, puis d'en faire un projet de groupe sans savoir exactement quelle forme ça allait prendre. Puis donc, j'ai invité des gays, des lesbiennes à se réunir autour d'archives. Mm-hmm. Puis c'est devenu, de fil en aiguille, le spectacle qu'on a aujourd'hui.
Donc, ça a commencé par Zoom, comme on dit si bien dans le temps. Ou plus ou moins.
Non, on a été chanceux, on s'est vu en
deux vagues.
En deux vagues, on a été en deux vagues,
ça a commencé là. Ouais. Philippe, vous êtes donc 8 personnes, 8 mains. Comment ça fonctionne, travailler un texte comme ça?
On était plus que 8 mains au départ du projet.
En fait, 16 parce que c'était 8 personnes.
Puis il y a un entonnoir qui s'est fait naturellement, puis on est devenu 8 personnes. Mais c'était un projet assez, assez particulier, je veux dire. À 8, c'est... je dirais que c'est facile, mais en même temps, c'est pas facile parce que, veux pas, vu qu'il y a le groupe qui est là, la force du nombre puis le bon vouloir collectif va faire en sorte que tout le monde va avancer dans la même lancée, tu sais, puis on va s'arranger pour que le projet prenne vie, prenne forme et soit cohérent. Ça fait qu'en sorte que, vu qu'on était les 8 ensemble, ben, veux pas, on fait des concessions, mais en même temps, c'est pour le bon vouloir du projet. Donc, ça n'a jamais vraiment été des grandes... des pertes ou des grands émois, dans le sens que ça n'a jamais été quelque chose de très triste, mais de se dire non à des passages-là ou d'autres passages ici, parce que vu qu'il fallait qu'on avance puis que le projet devait prendre vie, ben on est allé pour le bien commun, tu sais.
J'oserais dire aussi que des fois, il y a tellement de groupes dans nos communautés, mm-hmm. il y a tellement d'intérêts différents. Parfois, c'est déchirant, mais on doit choisir. Est-ce qu'il y a des choses... que toi, ben là, c'est pas facile de poser la question à ce moment-ci, mais est-ce qu'il y a des choses que toi, tu sens que tu as dû laisser tomber, que tu aurais aimé qu'on parle?
Ben, en allant aux archives puis en parlant un peu au début du projet, on s'est rendu compte que la communauté haïtienne, elle était intimement reliée, tu sais, les grands H qu'on a parlé.
Ah oui, t'sais, les homosexuels, oui. Les homophiles, les haïtiens.
Oui, ouais. On sait que la communauté haïtienne, elle a été, une bonne partie de la communauté a été porteur du virus, tu sais.
Ouais.
Puis ça, c'est peut-être un pan de l'histoire que j'aurais peut-être aimé qu'on parle un peu plus, mais tu sais, avec le jeune âge que j'ai pas nécessairement toutes les ressources pour me rendre là. Puis le gros projet étant ce qu'il est, fallait faire des choix. Donc ça, c'est pas quelque chose qu'on a parlé explicitement dans le show, mais ça reste, si on avait la chance de peut-être faire un deuxième opus, peut-être que c'est quelque chose...
Ben, à Just in America, il y a deux opus, non?
C'est ça, voilà. Mm-hmm.
Moi, j'aimerais retourner avec toi, Maxime. 15 interprètes. Plus de 3 heures de spectacle. On appelle ça une fresque titanesque, ça,
ouais,
certain.
C'est ce qu'on dit.
C'était quoi le plus grand défi de monter tout ça?
En fait, ça a été... Moi, je suis né dans le collectif. Ma première mise en scène était une co-mise en scène au début des années 2010. Puis donc, pour moi, ça va de soi, le climat de collaboration, puis essayer de créer un espace où tout le monde se sent invité à émettre son opinion, puis je cherche toujours dans n'importe quel projet, même quand c'est pas dans un esprit collectif, je cherche toujours à ce que tout le monde se retrouve à égalité d'obsession puis de connaissance du projet, pour que tout le monde, avec les outils qu'ils ont, avec le bagage qu'ils ont, qu'ils se sentent pertinents lorsqu'ils émettent leurs réserves ou leurs idées. Puis toutes les idées sont bonnes. Après ça, ben il faut que ça rencontre le projet. Puis il y en a qui collent, puis il y en a qui collent moins bien. Mais si on veut une richesse de projet, puis surtout sur celui-là, je trouvais ça important que la démarche soit à l'image de ce qu'on communique dans le spectacle.
Joe Philippe, on écrit, puis on joue. Comment ça se passe, ça? quand même. Puis, en fait, donc, on va aller là-dessus. On écrit puis on joue. Comment tu joues là-dedans? Là?
Moi, je trouve ça très vulnérabilisant. C'est la première fois que j'écris. Max, il m'avait approché durant ma troisième année de conservatoire de Montréal. Et j'avais jamais écrit. Là. Il m'a vu jouer, puis il m'a trouvé bon, oserais-je dire. Puis il m'a offert de participer à ce grand collectif-là. Puis j'ai fait OK, parce que je pense qu'il voulait mettre des voix ensemble issues de la diversité, mais de tout genre de diversité. Puis donc c'est pour ça que je pense qu'il m'a approché, puis j'étais très content. Donc j'ai participé à l'écriture, mais étant mon premier projet, je dois vous avouer que c'était une grande mise à nu. Mm-hmm. Se mettre à nu comme ça sur le papier. Tu sais, le papier, il fait vraiment un devoir de mémoire plus que la parole. Tu sais, l'écriture se rappelle vraiment des choses que des fois, on essaie d'oublier. Tu sais. Donc, je trouve ça très vulnérabilisant de faire ça. Puis faire ça, en plus de jouer les mots que tu as écrits, c'est comme une entité en soi qui a été une œuvre, tu sais, un cheminement. Mais je suis très content d'avoir eu la chance de faire ça. Puis à tous les soirs, pouvoir clamer les paroles que j'ai écrites, c'est quand même... c'est vraiment un privilège. Et puis je suis très content d'avoir la chance de faire ça.
Tu as mentionné diversité, tu me permets. Je vais quand même mentionner le fait que tu es, je crois, d'origine haïtienne.
Oui.
Ou tu as des parents haïtiens.
Entre autres.
Entre autres. Hein? Alors, est-ce que tu sens une pression? je pense que la question se pose.
Oui, je sens une pression. C'est pas... Tu sais, j'ai 25 ans, puis aujourd'hui, on penserait que dans la nouvelle époque dans laquelle on est, le courant de pensée est rendu un peu plus gauchiste, puis que tout le monde est un peu plus ouvert, mais moi, je dois vous avouer que c'est pas nécessairement mon cas dans ma famille à moi. Donc, le personnage que je joue sur les planches du CEP est intimement lié la façon dont j'ai été élevé. Ça vient vraiment de... ça vient de mon vécu. Donc, c'est ça, tu sais, je veux dire, communauté haïtienne, ça a été... cette façon d'avoir été élevée, ça n'a pas été facile. Puis on est encore là-dedans aujourd'hui, tu sais, on essaie de s'émanciper tranquillement, mais rapidement en même temps pour être capable d'être la personne qu'on veut être. Et c'est pas toujours facile, c'est même... assez difficile, mais on fait pareil, on est bien entouré, il y a des gens qui nous aiment et qui nous supportent.
Est-ce que je peux rajouter une couche? Parce que oui. Vous aussi un personnage queer dans la série Il vit écrit heureux sur Crave. Ça aussi, j'imagine que ça doit
un peu
les choses.
Oui, ça secoue déjà, ça froisse un peu. Mais oui, tu sais, je veux dire, mais je pense que la représentation, surtout, je pense qu'il y a des personnages comme ça qui existent, mais je ces personnages-là existent, oui, mais on n'a pas beaucoup de représentations noires, mettons, de ces personnages-là. Puis je suis très content d'avoir la chance de pouvoir porter ces personnages-là sur mes épaules puis de pouvoir les mettre à la télévision québécoise parce qu'on n'a pas beaucoup d'acteurs, point, qui sont issus de cette communauté-là à la base dans leur vie intime et qui ont la chance de les jouer sur les planches ou à la télévision. Donc, je suis très, très content de pouvoir faire ça.
Oui, mais c'en a fait un personnage très attachant, dans les deux cas,
merci,
en passant.
Merci.
Comment vous réagissez? Parce qu'il y a quand même quelques représentations qui ont été faites chez Duceppe. Je le dis d'entrée de jeu, moi, j'ai pleuré à quelques reprises quand je suis allé le voir vendredi. Comment vous accueillez cette réaction du public?
On a pu enchaîner le spectacle seulement une seule fois en salle de répétition avant d'entrer en salle. Ça a été un marathon, la création de ce projet-là. Puis donc, ça m'a pris du temps à prendre la mesure de ce que ça allait donner entre ce qu'il y a dans ma tête puis ce qui naît sur le plateau. Des fois, il y a un miroir plus direct, puis des fois, c'est plus... plus complexe. Puis en étant extrêmement occupé à mise en scène, j'ai pas eu le temps de me placer dans comment ça allait réagir et tout. Puis à la première, de recevoir de la part de personnes queer, y a des personnes qui m'ont dit qu'ils se sentaient à la maison dans dans cette pièce-là, qui sentaient que cette pièce-là était leur maison. C'est le plus beau commentaire que je pouvais recevoir. Parce que oui, on l'a créé pour les communautés queer, mais aussi, je sens de la part du public, du grand public de NUCEP, une attention, puis ils sont bouleversés de façon égale à celle de la communauté queer, même si puis ils s'identifient au personnage aussi. Puis dans le processus d'écriture, ce que Joe dit par rapport à se commettre intimement dans l'écriture, ce qui est beau, c'est qu'on a eu assez de temps aussi pour se commettre à l'intimité des autres, parce que chacune des scènes, il y a eu des personnes qui ont écrit le premier jet, puis évidemment, ça partait d'espaces plus intimes, d'espaces de vécu, d'espaces de connu aussi, ceux qui ont vécu l'époque, qui étaient au sein de l'équipe. Mais chacune des scènes, c'est passé entre les est passé entre les mains d'autres personnes, puis ça a comme été une occasion aussi de d'entrer en l'autre. Puis ça, c'est une chance inouïe qu'on a eue dans le processus. Puis je pense que ça se ressent dans le spectacle. Oui. Cette méta-rencontre-là.
Oui. Aux applaudissements, c'est assez fou, là. Oui. Puis je pense que, pour tout le monde, je pense pas ça a encore décanté en nous, le retour du public. T'sais. C'est assez gargantuesque ce qu'on vit en ce moment, là.
Alors, j'ai vraiment fait exprès pour ne pas parler de ce qui se passait sur scène parce qu'on voulait pas divulgâcher. Et je pense que on a réussi ça. On a réussi à parler de cette pièce d'enfant. Merci beaucoup, Maxime Carbonneau. Merci beaucoup, Jean-Philippe Lafortune. Je répète donc que cette pièce Corps fantôme est présentée au Théâtre du CEP jusqu'au 22 novembre. On espère peut-être des supplémentaires. Merci.
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 Vous êtes rendu compte que l'entrevue qu'on vous a fait entendre était préenregistrée à une époque où j'avais de la voix. Je m'ennuie de cette belle voix-là. Alors, je vous rappelle que ça va être pluvieux aujourd'hui en fin de journée. Les températures remontent dans le sud du Québec et en Ontario. Dans l'ouest du pays, c'est la tendance soleil et c'est du soleil surtout. Et dans les provinces atlantiques, la tendance soleil et nuages, sauf Saint-Jean de Terre-Neuve, où là-bas, il y a les restes de Mélissa à la coquine qui a décidé de faire pleuvoir sur la péninsule d'Avalon, où se trouve donc Saint-Jean de Terre-Neuve. Merci à l'équipe aujourd'hui, Hélène Denis qui m'a aidé à la recherche, qui sera de retour demain avec elle, une vraie voix. Et merci à Mathieu Thésier. Je vous reparle très bientôt, probablement la semaine prochaine. Au revoir.